France Culture. France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
Des habitants du Mexique et du Pakistan accablés par la canicule, des touristes immortalisant la température brûlante dans la vallée de la mort aux États-Unis, ou des incendies dévastateurs en Californie en plein mois de novembre. Selon l'Institut européen Copernicus, elle s'annonce déjà comme la plus chaude jamais enregistrée.
Elle sera aussi la première avec une hausse de la température moyenne du globe d'1,5 degré au-dessus de la période pré-industrielle. C'est donc la première, ce ne sera pas la dernière. Chaque année, il deviendra plus probable que la température dépasse ce seuil.
L'année 2024 fut la plus chaude jamais connue. 2025 sera la troisième plus chaude. Alors s'adapter ou subir, comment vivre dans un monde à plus 1,5 degré, 10 ans après les accords historiques de Paris sur le réchauffement climatique, et alors que les États vont se retrouver à Belém au Brésil pour la COP30 en novembre. Les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter et la barre des 1,5 degrés a été franchie en 2024. Partout dans le monde, les effets de la crise climatique se font sentir et les populations locales vivent un bouleversement au quotidien. En 6 points du globe, de l'archipel norvégien du Svalbard au département de l'Aude en France, de Saint-Louis du Sénégal au village de Lytton au Canada, de la Sicile en Italie à Ho Chi Minh au Vietnam, et bien des journalistes de la rédaction Planète du journal Le Monde sont allés dans ces territoires à la rencontre de leurs habitants. Constat et récit de ce basculement dans un monde à plus 1,5 degré et constat aussi des adaptations mises en place quand elles sont encore possibles. Dans cette émission en partenariat avec le journal Le Monde, nous en parlons aujourd'hui avec Gaëlle Dupont. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef des pages Planète du journal Le Monde, c'est ça?
Tout à fait.
Et donc, nous allons grandement parler de cette série formidable et donner à comprendre aussi ce qu'elle nous dit. Avec nous, Magali Reguedzazit. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, spécialiste de l'adaptation, ancienne membre du Haut Conseil pour le Climat, auteur notamment du livre « L'Anthropocène », documentation photographique, édité au CNRS Éditions, et avec nous dans le studio Christophe Cassou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes climatologue, directeur de recherche au CNRS, auteur principal du 6e rapport du GIEC, groupe 1, et vous êtes resté dans ce groupe-là pour œuvrer pour le 7e rapport, si je ne m'abuse.
C'est bien ça.
Et vous êtes co-auteur avec Valérie Masson-Delmotte du livre « Parlons climat en 30 questions », un livre paru à la Documentation française. Bien, bienvenue à vous tous, bienvenue à nos auditeurs dans le magazine de l'environnement de France Culture, préparé par Célestine Babinet, avec la collaboration de Aurélie Marsay, Vanessa Chang, Pierre Pinault-Delina et les équipes de documentation de Radio France. À la réalisation, toujours Alexandra Malka, et à la technique, Éric Perruchot-Triboulet. Une planète à plus 1,5 degré, c'est le titre de la série grand format proposée dans les pages Planète du journal Le Monde. Gaëlle Dupont, la genèse de cette grande enquête accessible sur le site, comment ça s'est décidé?
Alors c'est une tradition maintenant au journal Le Monde. Nous faisons chaque année une grande série dont nous choisissons le thème. Ça représente pour nous un gros effort en termes de moyens à la fois humains et financiers parce qu'il faut envoyer évidemment les reporters sur le terrain. Et on avait eu une autre idée au départ pour cette année, idée que nous avons abandonnée, je ne vous dirai pas laquelle. Et nous nous sommes dit, voilà, c'est les 10 ans de l'accord de Paris, il y a une COP très importante qui se tient au Brésil en novembre. Le seuil symbolique est devenu maintenant un petit peu familier quand même dans le débat public de 2 plus 1,5 degré a été franchi en 2024 pour oui. La première fois. Donc, nous, au service Planète, notre travail, c'est de documenter toute l'année les impacts du réchauffement partout dans le monde. Donc, on a beaucoup de thématiques qu'on couvre, mais c'est vrai que ces impacts, on les raconte en permanence. Nous, on a le nez dessus, on les voit. Mais on s'est dit, pour les rendre tangibles, perceptibles pour le public,
palpables,
il faut faire un arrêt sur image. On va choisir des endroits et on va mettre le projecteur sur ces endroits pour montrer ce qui se passe déjà avec seulement 1,5 degré de réchauffement, puisque on est parti, a priori, pour entre 3 et 4 degrés, si rien ne change. Déjà, avec un réchauffement de plus 1,5 degré, il y a beaucoup d'impact. Donc l'idée, c'était ça. C'est une idée, en fait, assez simple. Aller voir ce qui se passe sur le terrain.
Et renseigner.
Exactement, documenté, renseigné. Et la spécificité de cette série qu'on a commencé à diffuser sur le site le 28 septembre et qui s'échelonnera jusqu'au 2 novembre, tous les dimanches, c'est la photo, puisque c'est un travail qui est fait par les journalistes du service Planète, en collaboration avec une photographe qui cette année est Adrienne Surprenant. Et c'est la même photographe qui fait tous les reportages et qui donne à voir ses conséquences très très concrètes, humaines et palpables.
Alors avant de partir justement dans ces six lieux avec vous Magali Reguezazit et puis Christophe Cassou, dites-nous peut-être pour commencer un peu un bilan, un état des lieux, où en sommes-nous des 1,5 degrés dans le monde, des secteurs géographiques se réchauffent plus vite que d'autres, Christophe Cassou.
Alors le 1,5 degré, ce seuil symbolique qui est inscrit dans l'accord de Paris, il a été franchi en 2024 pour la première fois. Le fait de le franchir une année, en fait, ne dit pas que l'accord de Paris, en fait, est caduque, dans la mesure où dans l'accord de Paris, la définition des niveaux de température est faite sur 20 ans. C'est-à-dire qu'il faut qu'en 20 ans, sur une moyenne de 20 ans, le seuil de la température globale soit supérieur à 1,5 degré. Une fois qu'on a dit ça, quand est-ce que ce seuil va être franchi ? Et on s'attend à ce que ce seuil soit franchi au sens accord de Paris, ou à la fin des années 2020, 2028, 2029, début des années 2030. On est aujourd'hui sûr que, considérant les émissions de gaz à effet de serre qui continuent à augmenter, l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré est inatteignable. Ça va plutôt faire des trajectoires de l'ordre de 3 degrés si on considère les politiques publiques qui sont sur la table aujourd'hui, 3 degrés vers 2100, donc à la fin du siècle.
Alors 3 degrés si on maintient le cap de zéro émission nette à horizon 2050 ?
Non, ce sont les politiques publiques qui sont sur la table aujourd'hui. Ça veut dire que ces politiques publiques ne sont pas assez ambitieuses pour limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés, ce qui était inscrit dans l'accord de Paris. Ouais. Donc le net zéro ou la neutralité carbone, comme on appelle, n'est pas prévu dans ce scénario de 3 degrés, parce que les politiques actuelles ne sont pas assez ambitieuses.
Elles ne nous amènent pas à cet horizon-là.
Oui. Exactement, oui.
Magali Reguezazit.
Oui, alors, c'est important ce qu'a dit Christophe, parce qu'on a un problème d'échelle de temps et d'échelle spatiale. Là, quand on parle de ce 1,5 degré, donc on parle sur 20 ans par rapport à une date butoir, et on ne part pas depuis le début de la création de la planète, on est par rapport à la période pré-industrielle et on est sur l'échelle mondiale. Quand on va regarder au niveau des territoires, on sait que par exemple les continents se réchauffent plus vite que les océans. Aujourd'hui en France, on est déjà autour de plus de 2 degrés par rapport à la période au début du XXe siècle. En gros.
Et on parle de horizon 4 degrés à la
Alors,
fin du
siècle. Alors on parle horizon 4 degrés qui correspond à ce 3 degrés 2 à la fin du siècle. C'est très loin à la fin du siècle. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder ce qui se passe d'ici 20 ans. 20 ans, c'est une génération. 20 ans, j'espère que tous les gens qui nous écoutent seront encore là. Par exemple, aujourd'hui, on va prendre un enfant aujourd'hui qui commence sa scolarité. Voilà, il arrive à la maternelle. Et bien, dans 20 ans, qu'est-ce qui lui arrive ? Ben, cet enfant, dans 20 ans, si on continue sur ses trajectoires actuelles, on aura dépassé le 1,5 degré, et on aura dépassé, au niveau français, le 2 degrés. On va arriver à peu près vers 2045-2050. Météo France a fait tout un travail de projection des températures sur la base de ces émissions. On arrive à peu près à plus de 2,7 degrés sur la France. Alors là encore, c'est une moyenne. C'est une moyenne parce qu'évidemment, ça veut dire que peut-être dans l'année, au niveau des étés, au niveau des hivers, ça va changer des choses. Ça veut dire que nos extrêmes seront encore plus extrêmes. Ça veut dire que ce petit enfant qui rentre à l'école aujourd'hui, il va connaître un climat en France que ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, Jules César, Cléopâtre, Lucie, n'ont jamais
connu.
Et donc, il faut bien mesurer dans quel univers inconnu on bascule. C'est-à-dire que cet enfant, quand il sera adulte, il vivra un monde qui ne ressemble en réalité plus du tout à ce qu'on a connu aujourd'hui. Je crois qu'il faut qu'on mesure cet effet de bascule vers l'inconnu. Et c'est pour ça que les climatologues alertent. C'est pas juste une question de 2 degrés inscrits dans des accords. On a l'impression que si on arrive à 1,6 degré, 1,8, c'est la fin. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'arriver à contenir ce réchauffement climatique. Parce que derrière, les conséquences pour chaque individu, selon les territoires, selon son âge, selon son milieu, vont être absolument terribles parce qu'à mesure que ce changement climatique s'accroît, eh bien derrière, ce sont les saisons qui changent, ce sont la disponibilité en eau, ce sont les extrêmes qui deviennent plus forts. Il y a en fait un ensemble, une accélération de ce système climatique qui fait que demain, nous allons vivre dans un monde qui ne ressemblera plus à ce que nous avons connu enfant.
Et nous allons en prendre la mesure déjà avec les reportages réalisés. Christophe Cassou, vous aimez bien prendre l'exemple des Jeux Olympiques hein, d'été en France. Alors on a connu Paris 2024, 2028 ce sera Los Angeles, 2032 Brisbane en Australie, 2036 il y a des candidats multiples, hein, l'Inde, le Chili, la Turquie, la Corée du Sud, la Pologne, l'Allemagne, le Qatar si je ne me trompe pas. Voilà, vous, c'est une balise là aussi, c'est ça vous permet de donner à comprendre les choses.
Oui, comme dit Magali, c'est toujours intéressant en fait d'incarner ces degrés de réchauffement ou ces dixièmes de degrés de réchauffement. Aujourd'hui, on peut affirmer que Paris en 2024 a organisé pour la dernière fois les Jeux Olympiques en été. Pourquoi ? Parce que le risque de canicule en été, dans 20-30 ans, si Paris est retenu pour organiser de nouveau ces Jeux Olympiques, ce risque sera beaucoup trop grand pour une ville comme Paris. En 2024, quand Paris a organisé donc ces derniers Jeux Olympiques, la probabilité, le risque d'avoir une canicule forte était d'une chance sur 10. Vous imaginez un dé à 10 faces, la face 1... C'est la phase canicule. Au mois de juin, vous tirez ce dé, vous avez une chance sur 10 de tomber sur cette face-là. En 2014, quand François Hollande a proposé la candidature de Paris pour ces Jeux Olympiques, la probabilité était d'une chance sur 30. Le dé avait 30 faces. En 1924, première fois que la France organisait les Jeux Olympiques, la probabilité de vivre une canicule impactante, avec des risques majeurs importants en termes sanitaires, en termes de sécurité, cette probabilité elle était nulle. Donc si on se projette...
En un siècle, on est passé de 1 chance sur 10.
En un siècle, on est passé de rien quelque chose d'impossible à 1 chance sur 10. Ouais. Et en 10 ans, on a multiplié par 3 cette probabilité. Et si on se projette dans le futur, donc 2035, 2045, on va dire 2055...
On arrive à 1 chance sur 2, quoi.
On arrive à 1 chance sur 2, voire l'été 2022, qui est un peu notre référence pour les derniers étés les plus chauds, les plus impactants, 2022 deviendrait un été frais. Ça veut dire que les étés chauds, à ce moment-là, seront beaucoup plus chauds. Et on sait aujourd'hui, on peut l'affirmer, que le seuil de 50 degrés sera franchi quelque part en France, de manière épisodique, hein, pas sur un mois entier, mais pendant quelques jours, au cours des prochaines décennies.
Donc tout cela veut dire, Christophe Cassou, que si on s'adapte, les JO, on les vivra en avril ou en mars.
Il faudra.
Si on veut continuer à les vivre.
Si on veut, comme bon, il y a un questionnement évidemment sur la pertinence d'organiser de tels événements hein, qui ont des coûts carbone, des émissions carbone associées qui sont extrêmement grands. Oui, en tout cas, ils ne seront pas au mois de juin. Mais bon, c'est peut-être anecdotique, c'est peut-être illustratif.
Non, mais c'est tellement éclairant, effectivement.
Mais les JO, c'est peut-être pas très important, mais les Parisiens qui vont vivre en 2050 des vagues de chaleur avec des niveaux de température extrêmement élevés à la fois dans la journée et à la fois pendant les nuits, parce que ce sont les nuits qui sont aussi très importantes en termes sanitaires. Voilà, c'est les personnes évidemment qui vont vivre ces événements-là qui comptent. Et bien sûr ce niveau-là qui est important.
Alors actuellement, où en est-on de ce plus 1,5 degré? On voit des effets dramatiques déjà aujourd'hui qui bouleversent des lieux, des écosystèmes et des vies quotidiennes. Qu'en est-il dans des secteurs comme le Svalbard, par exemple, archipel norvégien, l'endroit qui se réchauffe le plus vite au monde, un endroit qui s'est réchauffé de plus 4 degrés en 30 ans.
Le Svalbard, un archipel situé à mi-chemin entre la Norvège et le pôle Nord, dans l'Arctique. Ces scientifiques font partie d'une équipe de 8 chercheurs travaillant pour l'Institut polaire norvégien. Au cours de la mission de cette année, l'équipe a effectué des prélèvements sur 53 ours au total.
On fait face à de très gros changements climatiques, particulièrement en Arctique et particulièrement au Svalbard. La diminution de glace est absolument dramatique et l'ours polaire est un animal arctique endémique qui utilise la glace, particulièrement la glace de mer, pour se déplacer, pour se nourrir, c'est-à-dire pour chasser les phoques et pour se reproduire.
Vous voyez cette ligne droite ?
Exactement, il a nagé.
C'est un petit logger, donc c'est un enregistreur qui nous permet d'avoir sur toute une année la température corporelle et la fréquence cardiaque des ours. Ces deux paramètres sont reliés aux dépenses énergétiques des ours. Et la dépense énergétique, c'est un petit peu la monnaie qui nous intéresse pour savoir combien d'énergie les ours ont besoin de dépenser dans la mesure où leur environnement change.
Extrait de reportage diffusé sur France 24 le 24 septembre 2024. Gaël Dupont, le Svalbard. Alors un très beau reportage réalisé par Audrey Garic. Vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus.
Oui, parler du Svalbard revient aussi à poser pour nous la question du choix, puisque effectivement, nous, notre enjeu, c'est d'incarner, effectivement, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, d'incarner ces changements et de faire comprendre qu'ils sont déjà très concrets. Et le Svalbard, c'est un endroit qui est quand même assez particulier, c'est un endroit où il y a très peu d'habitants.
3000, je crois.
Oui, où les gens ne naissent pas, parce qu'il n'y a pas d'hôpital pour les femmes enceintes pour y accoucher. C'est quand même un endroit particulier. Mais c'est aussi très intéressant parce que c'est l'endroit au monde qui se réchauffe le plus vite. C'est en moyenne plus 4 degrés de réchauffement dans cet endroit-là. C'est une toute petite communauté, donc c'est vrai qu'aller voir ces gens, c'est aussi un moyen de pouvoir comprendre les effets du réchauffement sur cette petite communauté. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on a commencé la série par cet endroit-là, qui a priori est quand même pas le plus évident, parce que c'est pas le plus peuplé et c'est pas le plus proche de nous, mais c'était un endroit qui est particulièrement intéressant et ça permet aussi de montrer l'effet du réchauffement, tout simplement sur la cryosphère, les glaces, puisque c'est un endroit où les glaciers s'effondrent et où en fait tout le paysage s'effondre puisque le sol est gelé en permanence et que le pergélisol donc est fragilisé par le réchauffement. Donc les maisons s'effondrent. Donc il y a des conséquences vraiment très concrètes sur les communautés locales. Même si, et c'est là le paradoxe, les gens sur place continuent à vivre en fait une vie qui est très très émettrice de CO2, donc ils sont à la fois acteurs du réchauffement et victimes, puisque évidemment il faut tout importer, pour y aller il faut prendre l'avion, et ils se développent, après s'être beaucoup développés grâce au charbon, aujourd'hui vivent énormément du tourisme, qui est quand même pour le moins paradoxal. Oui. Donc c'est en cela que cet endroit-là est très intéressant, et c'est vrai que le reportage est très éclairant et les photos d'Adrienne Surprenant sont aussi particulièrement belles et révélatrices de ce qui s'y passe.
Exactement, c'est assez impressionnant, on voit effectivement ces glissements de terrain, on parle de ces risques d'avalanches et des avalanches subies déjà massives, notamment en 2015 avec 11 maisons détruites et 2 habitants tués, puis 2017 etc. Et d'ailleurs la municipalité a fait raser des maisons de façon préventive, a fait installer des barrières anti-avalanche, un mur de protection de 400 mètres de long. On parle aussi du cimetière qui pourrait être déplacé. On voit bien que les conséquences sont là. Qui veut réagir ? Magali Rigatazi.
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, on sait aujourd'hui, grâce au rapport du GIEC, au dernier rapport du GIEC, qu'on a à peu près 3 milliards de personnes qui sont d'ores et déjà affectées par ce réchauffement climatique. La série du Monde est très intéressante parce qu'on part de très loin, sur des petites communautés, qui posent la question de ces peuples autochtones qui vont être très présents à la COP 30, à la COP de Belém, parce qu'effectivement, ce sont ces peuples, souvent ces minorités, qui sont particulièrement affectées par le changement climatique parce qu'elles vivent dans des zones un peu particulières. Souvent d'ailleurs, ce sont des minorités qui sont opprimées par les gouvernements. On peut voir les peuples de l'Arctique, on peut voir aussi par les gouvernements ou d'autres des mafias. Enfin, il y a beaucoup de travaux sur ces peuples autochtones.
Qui représentent, selon l'ONU, 5% de la population mondiale.
Qui représentent 5% de la population mondiale, qui ont des manières d'habiter leur territoire extrêmement particulières avec des connaissances très poussées et notamment qui sont des acteurs majeurs de la protection de la biodiversité. On y reviendra. Ce qui est très intéressant dans le monde, c'est qu'on part d'un changement climatique qui, jusqu'au moment du rapport du GIEC, en fait, à ce 1,2 degré, 1,3 degré qu'on vit aujourd'hui, c'était loin, c'était chez les autres. Et puis, il y a eu 2022. Alors, il y a une première alerte en 2019, le brevet qui est repoussé, annulé, enfin voilà. Puis ça rentre de plus en plus chez nous. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal, en tant que scientifique, à expliquer, par exemple, qu'on meurt aujourd'hui du changement climatique, en France. Pas au pôle Nord, pas très très loin, il ne faut pas prendre l'avion. On meurt
sous nos yeux
du changement climatique parce que, comme le disait Christophe tout à l'heure, des événements qui étaient impossibles il y a un siècle deviennent possibles. Ça, c'est le premier point. Et donc le changement climatique, il devient non seulement perceptible, il rentre dans notre quotidien. Et on peut mettre toutes les barrières qu'on veut en réalité. Il est maintenant chez nous, il est maintenant dans nos logements, dans cet inconfort thermique, il est maintenant dans notre travail. On voit qu'aujourd'hui, par exemple, et je reviens à mon petit enfant qui est rentré à l'école, ce petit enfant, cet été, par exemple, dans certaines communes, il n'a pas pu aller à l'école parce qu'il faisait trop chaud dans le dortoir. Ou parce que papy et mamie étaient fatigués, parce que pendant la nuit, il faisait plus de 20 degrés, et donc ils pouvaient pas s'occuper comme ils voulaient, parce que même leur organisme était fatigué.
Et ne pouvaient pas récupérer.
Exactement. Et donc on se pose effectivement cette question de l'habitabilité de certains territoires, où à un moment, le modèle de développement n'est pas soutenable, mais de l'autre côté, le niveau de protection peut pas être monté indéfiniment. Il y a un autre point qui est très important et dont on parle très peu dans le reportage, c'est la question de l'ours polaire. Alors vous allez me dire, l'ours polaire, ça a été pendant très longtemps le symbole de ce qu'on a appelé la peluchisation, c'est-à-dire on parlait de la biodiversité à partir d'espèces emblématiques, plutôt mignonnes, plutôt sympathiques. Alors bon, l'ours polaire, là aussi, hein, il ne faut pas trop se retrouver en face d'un ours polaire, mais c'était le sauvage, c'était justement cette image des glaces qui fondaient, des glaciers, etc.
On en parle un petit peu, on parle des ours et des rennes, mais en expliquant qu'ils semblent s'adapter, mais sans avoir plus d'éléments.
Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que, et ça c'est, j'allais dire, l'ours polaire ou l'éléphant au milieu de la pièce, c'est que la biodiversité fait partie aujourd'hui d'un des points centraux qui est complètement invisible dans le débat public. Et j'espère qu'à Bellem, on va en parler. Pourquoi ? Parce que cette biodiversité, elle est d'abord en érosion du fait des activités humaines. Et le changement climatique est en train d'accélérer l'érosion de la biodiversité. Et cette érosion de la biodiversité, en retour, elle aggrave le changement climatique, notamment parce que les puits de carbone sont en train de s'effondrer. Donc, la planète stocke moins de carbone naturellement. Et cette biodiversité, il faut bien imaginer que c'est pas juste l'idée qu'on aime ou on n'aime pas les animaux. C'est pas juste l'idée qu'on n'aime pas telle ou telle espèce. On entend beaucoup dans le débat, ah mais oui, mais pour sauver un oiseau, pour sauver un crapaud, pour sauver un insecte, et d'abord les moustiques, c'est pas bien. Non, la biodiversité derrière, c'est ce qui nous permet de manger.
C'est un équilibre d'écosystèmes.
Ce sont des services écosystémiques qui ne sont plus rendus. Ces services écosystémiques, c'est aussi bien la régulation du cycle de l'eau, que les micro-organismes dans le sol que vous ne voyez pas, et qui permettent aujourd'hui à l'agriculture de donner, à l'agriculture de produire. Et donc, quand on parle de paysage, en fait, c'est le premier signe qu'on devrait voir du réchauffement climatique. Quand on voit aujourd'hui dans les plaines, les épicéas qui sont en train de disparaître, quand vous voyez dans vos villes, dès le mois de mai, juin, des arbres qui sont jaunes, quand vous voyez aujourd'hui vos plantes qui fleurissent avec un mois d'avance, on n'imagine pas à quel point cet impact sur la biodiversité, il est déjà dans nos assiettes. Le vin, la vigne, par exemple. Et alors, on parle beaucoup des abeilles, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la question des pollinisateurs, la question des insectes. Et en fait, on commence à voir ce système, c'est-à-dire ces éléments en interaction, en interdépendance, qui font que ce qui était très loin de nous, qui était étranger, arrive dans notre quotidien et touche notre corps. Et on passe de la représentation du changement climatique à une perception sensible, dans laquelle la biodiversité, malheureusement, est encore absente. Et si on ne tient pas les deux, on n'est plus dans cette question de 3 ou 4 degrés. Et la question, c'est que si les écosystèmes ne s'adaptent pas, et les écosystèmes ne peuvent pas s'adapter comme les êtres humains, on se trouve dans une situation de limite dure à notre propre adaptation.
Quand on parle de limite planétaire, Christophe Cassou, souvent on a cette expression-là en disant certaines ont été franchies, risque d'effet d'emballement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière tout ça ?
Les limites planétaires sont un cadre en fait de communication sur les risques liés au changement climatique et à la biodiversité. Il y a un débat en fait dans la communauté scientifique sur ce cadre conceptuel. Il vient d'une école anglo-saxonne, germanique aussi, qui a introduit cette notion de limite planétaire, alors qu'on a traduit en français limite planétaire, mais en fait c'est plutôt frontière planétaire. C'est-à-dire des seuils à partir duquel l'ensemble du système serait en danger. La traduction est assez mauvaise dans la mesure où le mot « limite » laisse penser à une rupture, à une chute, quelque chose qui est d'irréversible.
Oui, tandis que frontières, c'est poreux.
Les frontières sont poreuses, on peut revenir en arrière. Alors, il y a des points de bascule, en particulier dans le vivant, par exemple au niveau des coraux. On sait que le 21e siècle sera un point de bascule dans la mesure où à peu près 95% des coraux auront disparu dû à ce réchauffement climatique.
C'est en train de se faire, ça se produit là et sous nos yeux.
C'est en train de se faire, on est vers cet effondrement de cette espèce animale. Au niveau de la physique, on va dire, on parle de circulation atmosphérique ou on parle de circulation océanique, on n'a pas encore franchi de point d'irréversibilité en tant que tel. Mais il faut bien se rendre compte que chaque fraction de degré de réchauffement supplémentaire nous rapproche de ce possible point de bascule. On ne sait pas aujourd'hui quand est-ce qu'arrivera ce point de bascule. On connaît les mécanismes qui donnent lieu à ces points de bascule. Mais la temporalité est inconnue. Mais par contre, on sait, donc dans notre jargon, on parle d'incertitude profonde. Mais par contre, c'est des événements qu'il faut considérer quand on gère le risque. Si ce point de bascule arrive, alors quel risque ? Quelles conséquences ? Et il faut les anticiper, en particulier pour des infrastructures critiques, en particulier quand on parle de sécurité alimentaire. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que le concept de limite peut être intéressant.
Voilà, les fameuses limites planétaires qu'on devrait plutôt traduire comme frontières planétaires. Donc on en compte 9, il y en aurait 6 déjà dépassées, mais ça ne veut pas dire qu'on est sur les points de bascule. C'est ce qu'on comprend par rapport à vos démonstrations, Christophe Cassou.
Exactement, donc il faut faire attention en fait dans un peu cette tendance au catastrophisme, d'utiliser en fait cette idée que, alors si je reprends le seuil de 1,5 degré dont on a discuté au début, à 1,48 tout va bien, à 1,52 c'est la catastrophe, on est tombé de la falaise.
Oui, c'est quand même plus nuancé, plus
c'est beaucoup plus nuancé, c'est une trajectoire, c'est un continuum. Et donc il faut faire attention à cette idée de rupture, mais c'est pas parce que on n'aurait pas franchi des points de bascule que le changement climatique, les effets du changement climatique sur la biodiversité et sur les sociétés humaines n'est pas grave. Bien évidemment, c'est très grave.
Et puis bien sûr, considérer que sur le globe, en tout cas la planète, il y a des points qui se réchauffent plus vite que d'autres. Et puis les effets ou les conséquences ne seront pas les mêmes, mais il y aura effectivement des conséquences. Prenons la direction du Canada, qui connaît ces dernières années des méga-feux dévastateurs.
Le paysage de carte postale du parc national de Jasper, envahi par une épaisse fumée. 36 000 hectares de forêt ont déjà été détruits. 20 000 touristes et 5 000 habitants de la région ont dû être évacués.
Même si ceux qui ne connaissent Jasper que comme visiteurs ne peuvent pas imaginer ce que nous pouvons ressentir en tant qu'habitants, nous partageons le grand sentiment de perte avec tous ceux qui vivent dans cette ville, qui en prennent soin et qui ont aidé à la construire.
Selon les autorités locales, jusque la moitié des bâtiments de la ville de Jasper ont pu être détruits par les flammes. L'Ouest canadien, frappé par une très forte sécheresse, a connu de nombreux départs de feu ces derniers jours. Les vents poussent les épaisses fumées. À 60 km du parc de Jasper, les habitants sont aussi affectés.
Je suis mécanicien à Hinton, en Alberta, et j'ai remarqué récemment les effets de l'incendie de forêt à Jasper. En travaillant dans l'atelier, chaque fois que les portes s'ouvrent et se ferment, on peut vraiment sentir la fumée ici en ville aujourd'hui.
De la pluie et des températures plus basses ont apporté du répit aux pompiers ces dernières heures, mais avec près de 600 feux actifs rien que dans les États de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, le Canada craint de vivre un été catastrophique comme en 2023, où 15 millions d'hectares étaient partis en fumée.
Reportage diffusé sur France 24 le 27 juillet 2024. Gaëlle Dupont, vous avez fait ce choix avec la rédaction des pages planètes du journal Le Monde de partir du côté du Canada et précisément donc dans ce petit village en Colombie-Britannique. Donc c'est pas du côté de Jasper, mais c'est Lytton, dans l'ouest canadien, à 3 heures de route de Vancouver, avec ce reportage proposé par Delphine Roucotte.
Oui, alors c'est un grand saut dans l'espace, effectivement, avec là encore une petite communauté et toujours l'idée de montrer que tout le monde est concerné au fond. Aujourd'hui, il n'y a plus une zone du globe qui n'est pas concernée par les effets du réchauffement. Et aussi le choix d'un endroit symbolique, puisque nous, notre préoccupation en tant que journaliste, c'est d'essayer de transmettre aussi une connaissance, un état de fait. On utilise parfois des raccourcis, on parle des 1,5 degrés, on parle des limites planétaires, parce que ça permet de faire passer une information, tout simplement. On a beaucoup de concurrence autour de nous, il y a beaucoup d'informations. Il faut qu'on arrive, nous, à dire, voilà, ça c'est très important.
Donc... Sans banaliser l'information.
Non, bien sûr. Oui. Et donc, on a recours comme ça à des techniques, et donc là on est allé à l'endroit qui est devenu le symbole du réchauffement climatique au Canada, qui est un village qui s'appelle Lytton, qui a été quasiment entièrement détruit dans un incendie en 2021. Comme souvent les incendies au Canada, on en fait état évidemment sur le coup, on fait des reportages, c'est très impressionnant, et puis après bon, on passe à autre chose, on n'en parle plus. Donc là c'est toujours intéressant de retourner dans des endroits où on est allé et dont on a parlé quelques années auparavant. Ce qui est aussi intéressant dans ce reportage, c'est qu'on voit bien que ce qui se dérègle, ce sont des éléments qui étaient familiers aux gens sur place, ce qui peut faire dire à certaines personnes, en fait, on a toujours connu ça. Il y a eu une saison des feux au Canada, il y a toujours eu une saison des feux, mais simplement elle est de plus en plus longue, elle est de plus en plus intense, les surfaces brûlées sont de plus en plus importantes, et on voit bien que les gens sur place, il y a encore quelques années, pouvaient dire, on a toujours connu ça, mais là, ce qui me frappe dans les reportages, et dans ce qu'ont ramené les journalistes, c'est que les gens ne disent plus ça. C'est-à-dire que tout le monde voit bien, effectivement, comme en France, on voit bien que c'est devenu très concret.
C'est de l'anormal, quoi.
C'est le cas partout, en fait, où les gens se rendent bien compte que quelque chose a changé parce que l'intensité des phénomènes est devenue plus importante.
Et d'ailleurs, la veille de ce feu qui a dévasté Lytton, la température avait atteint 49,6 degrés sur place et les habitants racontent effectivement et le ressenti. Et puis le stress post-traumatique, on perçoit aussi que certains ne sont pas revenus sur le lieu et d'autres essayent de refaire leur vie avec ou des mobilos ou d'autres moyens de vivre, de ne pas lâcher leur terre. Une adaptation que l'on perçoit aussi dans ce reportage, Magali Regezazit, alors qui nécessite, c'est intéressant aussi parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais cette adaptation, tout le monde ne peut pas la faire. Donc ça nécessite des investissements et donc c'est coûteux socialement, psychologiquement, financièrement, politiquement et que là c'est un autre levier, faut en parler aussi.
Là aussi il y a deux choses. Pourquoi en fait avec Christophe on insiste à chaque fois et on essaie d'avoir de la nuance. C'est pas juste parce que on est scientifique et moi j'en profite aussi pour remercier les journalistes qui donnent à voir ce qui se passe. Parce que finalement, comme vous le dites, on est dans une société où la désinformation est maximale et je trouve que le fait d'aller au Canada, juste à côté des États-Unis de Trump, qui brûle aussi très régulièrement, on lutte, en fait, on est les petits poussés, on est les David contre Goliath face à une désinformation extrêmement structurée aujourd'hui, pas que sur les réseaux sociaux, mais aussi dans des médias, et on connaît les enjeux des États-Unis, mais on pourrait dire la même chose en Europe, qui fait que la moindre faille, la moindre imprécision est systématiquement utilisée par les climato-sceptiques, ou par les dénialistes, ou par les tenants de l'inaction. Parce que d'ailleurs, ces tenants de l'inaction, ils sont pas forcément climato-sceptiques, et ils sont pas forcément dénialistes, ils pensent simplement que s'en sortiront. Et ça amène à votre deuxième question. Et donc, par exemple, sur les incendies, toutes les catastrophes se ressemblent. Moi, je suis très frappée, ça fait 20 ans que je travaille sur les catastrophes, les témoignages sont toujours les mêmes. Ça fait éruption, ça casse, ça... les gens disent toujours « on n'a jamais vu ça » ou « ah mais finalement, si, on l'a vu », donc il y a des récurrences. Il n'empêche que cet événement humain qui va fracturer une vie, elle se télescope effectivement avec un événement plus global qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens sont soumis à ces conditions favorables aux incendies. Alors oui, les incendies, à 90%, sont d'origine humaine. Simplement, essayer de mettre le feu à une forêt humide, à une forêt tropicale, vous pouvez y aller, ça ne marchera pas. En fait, les conditions favorables aux incendies augmentent. Et donc derrière, évidemment, c'est par exemple ce discours qu'on entend aussi beaucoup en France. La forêt progresse, vous voyez bien que vous racontez n'importe quoi. Ben, la forêt progresse, mais elle va très mal.
Dépérissement.
Elle dépérit et donc les conditions propices aux incendies augmentent. Et pourquoi ça c'est important pour deux choses? Parce que dans les zones qui étaient soumises à des incendies, eh bien les incendies sont plus fréquents, sont plus tôt dans l'année, sont plus tard dans l'année. Et donc les mécanismes adaptatifs qui ont toujours fonctionné tant que le climat était relativement stable ne fonctionnent plus. C'est ce que vous pouvez par exemple voir dans le sud de la France, mais vous l'avez aussi en Californie, où les feux commencent de plus en plus tôt, finissent de plus en plus tard, et où finalement des choses qu'on mettait en œuvre qui ont toujours fonctionné, de mémoire qu'on se transmet de génération en génération, ça fonctionnait, ça ne fonctionne plus. Et puis vous avez des zones qui, là, n'étaient pas touchées par les incendies et qui le deviennent. Et où, en fait, l'urbanisme, la manière d'occuper le territoire, eh bien, elle s'est faite en fonction de l'absence de ce risque. Et donc, derrière, la question va se poser très vite, c'est que, comme vous l'a dit Christophe, le changement climatique ne s'arrête pas. Et donc, quand on va mettre en place des mécanismes d'adaptation, eh bien, ils seront très rapidement obsolète en réalité, et que sur les territoires, vous avez des gens qui n'ont pas choisi d'être là, ou qui sont là et c'est chez eux, et qui ont envie d'y vivre. Parce que si vous les déracinez, on parle beaucoup de la question psychologique,
bien
mais
sûr.
Quand vous faites bouger quelqu'un, le travail, l'école, les solidarités familiales, les solidarités... Vous parliez du cimetière, l'attachement à ses morts. Et donc vous vous retrouvez dans une situation où cette adaptation en fait n'est plus possible pour tous. Christophe a parlé des points de bascule physiques. Il y a des points de bascule sociaux qui sont locaux, où à partir d'un moment donné, la communauté humaine, la société, peu importe sa taille, ne va plus pouvoir assumer l'habitabilité d'un territoire.
Christophe Cassou.
Et je pense que c'est très intéressant d'avoir choisi donc le Svalbard et puis Lytton comme focus pour cette série dans le monde, parce qu'en fait ces lieux-là sont des sentinelles. C'est des sentinelles du changement climatique. Ça se réchauffe beaucoup plus vite au Svalbard. Les feux sont beaucoup plus importants au Canada. Ce sont aujourd'hui des avant-goûts de ce qui peut arriver n'importe où dans le monde. Donc, utilisons ces exemples, considérons, évaluons les limites de l'adaptation face à ces risques qui deviennent de plus en plus importants. Sachant que, ce que dit Magali, en fait, on court toujours derrière les effets du changement climatique. parce qu'il ne s'arrête pas. Et donc, il faut absolument limiter nos émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle l'atténuation, pour nous laisser le temps, un petit peu de temps, à s'adapter, et aussi les écosystèmes, puisque certains écosystèmes ont des temps de vie qui sont beaucoup plus grands, en fait, que les sociétés humaines.
Ces feux-là, ce sont des millions d'hectares hein, qui partent en fumée chaque année, qui libèrent du CO2, qui augmentent le réchauffement climatique. On est aussi dans un cercle infernal, Christophe Cassou.
On est dans le jargon d'une boucle de rétroaction positive, c'est-à-dire c'est un cercle vicieux qui fait que les conséquences du changement climatique jouent sur la cause, donc augmentent en fait le réchauffement climatique qui produit ses conséquences. Et une étude vient juste de sortir la semaine dernière sur les émissions de CO2 en 2025, les premières estimations. Et ces émissions de CO2 seraient à l'échelle mondiale les plus élevées depuis à peu près une dizaine d'années. Non pas parce que les pays, les États font moins d'efforts ou ne sont pas à la hauteur des actions engagées, mais parce que les incendies de l'année dernière jouaient un rôle très important.
C'est ça.
Donc on voit en fait qu'aujourd'hui, du fait de cette réponse du système climatique à ce réchauffement climatique, bah, il faut être encore plus ambitieux que ce qu'on avait imaginé, puisque la nature ou la biodiversité ou les écosystèmes qui sont nos meilleurs alliés pour lutter contre le changement climatique, en fait aujourd'hui, bah, nous aident de moins en moins.
France Culture, De cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
C'était Mathias Duplessis, Ama Jara. On prononce comme ça, Christophe Cassou, parce que c'est votre choix musical. Il faut que vous nous l'expliquiez. C'est juste magnifique.
Ce morceau de musique, en fait, peut être interprété de manière très différente. Bon, certains jours, moi, je l'interprète comme un cri de cette terre vivante, incluant les humains, bien sûr, qui implore de faire quelque chose. Et d'autres jours, où peut-être je suis un peu plus optimiste, pour moi, elle représente une vie qui naît, sous forme d'harmonie entre un environnement et puis la société dans laquelle on vit.
C'est vrai qu'on perçoit presque ces voix de la Terre, et c'est magnifique. Merci pour votre proposition, ce choix musical, et bien sûr, on poursuit. De cause à effet, le magazine de l'environnement de France Culture, s'adapter ou subir, comment vivre dans un monde à plus 1,5 degré, c'est la question que nous posons, en partenariat avec le journal Le Monde, et à l'occasion de la grande enquête intitulée « Une planète à plus 1,5 degré », avec nous Gaëlle Dupont, rédactrice en chef des pages planètes du journal Le Monde, Magali Reguezazit, géographe, ancienne membre du Haut Conseil pour le Climat. Nous pouvons conseiller votre livre « L'Anthropocène, documentation photographique », un livre édité au CNRS Éditions. Et puis Christophe Cassou, climatologue, directeur de recherche au CNRS, auteur principal du 6e rapport du GIEC groupe 1 et du 7e rapport en cours, co-auteur avec Valérie Masson-Delmotte du livre « Parlons climat en 30 questions », un livre très efficace, paru à la documentation française. Et alors du côté de l'Europe, dans ce voyage que l'on fait à travers
faire le monde. Quels sont les territoires déjà très impactés? Eh bien, partons tout simplement dans l'Aude.
Sur la commune de Saint-Laurent-de-la-Cabreris, les pompiers sont là, tout près. Ils combattent des reprises de feu pour protéger un mas viticole particulièrement exposé.
Je suis monté au milieu des flammes parce que je connais exactement la colline, donc je savais où je pouvais aller. Je suis allé faire un petit topo pour voir ce qu'il en était. Ça a été surprenant, je me suis fait prendre par une reprise de feu sur un chêne vert. Je suis vite redescendu.
Au village de Saint-Laurent-de-la-Cabreris, le retour des habitants est douloureux. Corinne et Serge reviennent pour la première fois sur leur propriété. Il ne reste plus rien.
Lorsque je suis arrivé ici pour sauver le chien, ça brûlait de part en part, un peu partout. Nous avons traversé l'enfer avec les pompiers. En mode survie. Avec vraiment le sentiment de la mort.
Tout d'un coup, on n'a plus aucun repère. C'est surtout ça, plus aucun repère, plus aucune... Tout change. C'est bouleversant, en fait.
Reportage diffusé sur France 3 Occitanie le 7 août 2025. Vous pouvez lire aussi l'article de Léa Sanchez, un article apparaître sous peu, Gaëlle Dupont.
Oui, c'est le dernier de la série, donc qui paraîtra le 2 novembre sur le site et un petit peu avant dans le journal papier.
En sachant que d'autres articles ont été écrits précédemment sur la situation dans l'Aude, un département très touché, Magali Reguezazit, des risques déjà identifiés, les feux, vagues de chaleur, perte de rendement agricole, pénurie d'eau, inondations. Là, on est typiquement en France et avec des effets plus que palpables.
Alors oui, sur la France, on voit bien, on a d'une part les territoires ultramarins qui sont de plus en plus touchés, et puis ce bassin méditerranéen qui vraiment, alors était déjà un territoire à haut risque, du fait même du climat, mais évidemment là, ça s'accélère, ça s'intensifie, et on voit d'ailleurs que des systèmes qui ont été adaptés pendant des siècles, oui, les hommes en Méditerranée se sont toujours adaptés, oui, ils ont trouvé des réponses pour faire face au manque d'eau, pour faire face à la chaleur, pour faire face aux incendies, pour faire face à un ensemble de dangers qui venaient de leur milieu. Mais là, on est en train de passer un seuil. On est en train de passer un seuil qui, en fait, est lié non seulement au climat, mais aussi aux héritages du passé. C'est-à-dire que sur ces territoires, il y a eu, à partir des années 70-80, des formes d'occupation des sols, des choix d'aménagement, des choix aussi en termes d'agriculture, alors qui d'ailleurs au bout d'un moment n'ont malheureusement plus été des choix, mais qui ont été aussi les conséquences d'une crise agricole profonde, qui ont fragilisé les territoires. Qui ont fragilisé les territoires avec en plus un vieillissement de la population, avec aussi beaucoup de territoires ruraux qui souffrent des mêmes difficultés que l'ensemble des territoires ruraux français qui sont parfois qui manquent d'accès aux services publics, avec moins de pompiers, avec... Et donc on voit aujourd'hui que cette la vulnérabilité et l'exposition de ces territoires a augmenté, avec des conséquences très lourdes. On parle de l'Aude, on a parlé des Pyrénées orientales qui ont beaucoup manqué d'eau. On pourrait aussi parler de la Camargue, qui est un delta qui est menacé par le niveau marin. Donc voilà, on a aujourd'hui des effets qui sont très tangibles, très sensibles, et qui en fait posent la question aujourd'hui de l'effort et à nouveau de l'adaptation. Parce que d'une part, ce qu'on sait, et ça vaut pour l'ensemble des lieux qui ont été évoqués dans la série du Monde, c'est que on sait aujourd'hui que on parle beaucoup d'État, on parle beaucoup des émissions par État. En réalité, il faudrait regarder la répartition de ces émissions. Or, aujourd'hui, on sait que cette répartition, elle est étroitement corrélée aux revenus. C'est-à-dire que les personnes qui ont le plus de moyens de se protéger des risques, par exemple parce qu'ils ont une résidence secondaire, parce qu'ils peuvent se déplacer, parce qu'ils ont une voiture, parce que ce sont aussi les personnes qui ont le plus de marge de gains sur leurs émissions, puisque quand vous émettez beaucoup, forcément, vous pouvez réduire beaucoup plus. Quand vous êtes déjà autour de ce qu'il faut faire, vous n'allez pas avoir une marge énorme. C'est celle aussi pour qui l'effort est le plus indolore. Quand on parle, par exemple, de sobriété, si au lieu de m'acheter 5 pulls, j'en achète que 4, a priori, ça ne va pas changer grand-chose. Et c'est celles qui sont le moins exposées, et c'est celles qui sont le moins frappées par les politiques climatiques. Et on oublie quelque chose dans l'adaptation. Et ça, j'insiste vraiment parce que le débat va se poser de plus en plus dans notre société avec les échéances électorales qui arrivent. On doit s'adapter au changement climatique, mais on doit aussi s'adapter à la décarbonation. Notre objectif, c'est la décarbonation. Eh bien, cette décarbonation, ni vous ni moi n'avons jamais vécu dans une société décarbonée. Nous n'avons jamais vécu dans une société où il n'y avait pas de pétrole, où il n'y avait pas de charbon, où il n'y avait pas de gaz. Toute notre vie, le plastique qui nous entoure, par exemple, ça vient des hydrocarbures. Nos vêtements, tout ce qu'on
fait,
notre
énergie fossile, en fait.
Tout est énergie fossile. Mmh. Et donc, s'adapter à la décarbonation, ça a un coût. Et ces coûts de transition aujourd'hui sont supportés de manière disproportionnée par les plus fragiles, les plus vulnérables et ceux qui mettent moins. Donc on est vraiment dans un enjeu de justice climatique et moi je ne supporte plus d'entendre ce terme acceptabilité. Parce que je suis désolée, mais l'acceptabilité c'est quoi ? C'est pas la résignation. L'acceptabilité c'est de dire à un moment qu'est-ce qu'on me donne comme moyen pour agir et pour décider, y compris de ne rien faire. Et quand on pose la question comme ça, il s'agit pas d'accepter ou de pas accepter. Il s'agit de se dire qu'aujourd'hui, on doit pouvoir maintenir un éventail de choix qui fait que je peux rester ou je peux partir, qui fait que je peux choisir d'habiter en partie ou pas, que je peux avoir telle ou telle option. Et aujourd'hui, ces options-là, cet éventail des possibles, il se restreint d'une part parce que le changement climatique progresse et d'autre part parce que les politiques publiques sont injustes et ne regardent pas les leviers d'action. Et c'est, il n'y a pas de rejet de l'action climatique. Ça aussi, j'insiste, toutes les études le montrent. Ce que disent les gens, il faut que ça soit juste. Moi, je veux bien changer. Donnez-moi les moyens d'accéder aux ressources.
Oui.
Et vous retrouverez la même chose sur l'Aude au niveau des élus locaux. Vous retrouverez la même chose dans les entreprises, chez les agriculteurs. Oui, pour changer, donnez-nous les moyens de pouvoir le faire. Donnez-nous les moyens de choisir.
Justice sociale, c'est ce qui est demandé.
La justice environnementale, qu'est-ce que c'est qui est juste, qu'est-ce que c'est qui est injuste, au fond. Et là, on touche à ce qui est dit depuis tout à l'heure. En fait, on tourne autour d'enjeux éthiques, d'enjeux politiques, d'enjeux esthétiques, d'enjeux religieux. Ça touche en fait à notre rapport, Christophe parlait tout à l'heure du rapport à la Terre, mais ça touche aussi à nos rapports à l'autre, à nos rapports entre générations. C'est pour ça que c'est un beau sujet. C'est pour ça que c'est quelque chose de, en gros, de fascinant, puisqu'on est dans un projet collectif et qu'au fond, c'est très humain tout ça.
Et c'est parler d'équité aussi. Donc aider, ça veut dire aussi, comme vous le disiez Magali Reguezazit, la moitié la moins riche des ménages en France, par exemple, est responsable de 20% de l'empreinte totale, donc empreinte carbone, alors que les 20% les plus riches sont à l'origine de 50%. C'est là où on peut se dire qu'effectivement, avec cet écart, il faut pouvoir être dans une entraide pour engager la sortie des énergies fossiles et l'atténuation, bien sûr. Alors vous parliez du positif. Allez, un dernier son est bon dans un autre territoire, mais qui subit aussi. C'est la Sicile, en Italie. Et Mathieu Gouard nous a proposé un très bel article qui parle non seulement des effets, des conséquences, mais aussi d'adaptation ou de solutions trouvées.
47 degrés jusqu'à 48,8 degrés enregistrés au sud-est de la Sicile dans une localité proche de Syracuse. La vague de chaleur caniculaire qui frappe le bassin méditerranéen provoque des incendies du nord de l'Espagne à la Grèce en passant par la Tunisie et inquiète les climatologues. En tant qu'expert, je suis impressionné par l'intensité extrême des événements que nous observons et par les records que nous battons chaque semaine. Tous les climatologues sont impressionnés par la vitesse du changement climatique.
Quello che stiamo vivendo adesso va vissuto come un assaggio di quello che in realtà potrebbe diventare.
Ce que nous voyons maintenant, c'est une anticipation de ce à quoi pourrait ressembler la crise climatique à la fin du siècle.
9 anni per riuscire a
Selon le rapport du GIEC, nous avons encore 9 ans devant nous pour changer les choses et limiter les effets de la crise climatique. Le niveau de la mer a déjà été modifié par le changement climatique et il pourrait l'être encore.
Reportage diffusé sur Euronews le 12 août 2021. 4 ans plus tard, le 2 février 2025, Gaël Dupont, dans le nord-est, sur les hauteurs de Saponara. En 4 heures, le ciel a déversé 140 millimètres de pluie torrentielle, des boues. Et là, on est vraiment au plein cœur de cette Sicile qui souffre des effets. Et en même temps, il y a quand même un horizon.
Oui, c'est très intéressant ce reportage en Sicile. On a choisi la Sicile parce que c'est une île qui est particulièrement exposée. Alors là, c'est une beaucoup plus importante population. C'est quasiment 5 millions d'habitants, donc c'est une grosse communauté qui est exposée à tous les risques du réchauffement, à la fois les feux, les inondations, l'érosion des côtes, les intrusions salines et les sécheresses qui obèrent grandement les capacités des agriculteurs à produire comme ils ont produit auparavant. Et c'est vrai que le reportage montre bien que, et c'est un point commun en fait entre les différents reportages, une capacité d'adaptation des gens que nous sommes allés rencontrer qui est assez impressionnante. Et effectivement, en Sicile, ce sont des agriculteurs qui se tournent vers des semences plus rustiques, qui changent carrément les espèces cultivées.
Qui renouent avec des semences anciennes,
oui, qui renouent avec des semences anciennes, mais ça pose quand même énormément de problèmes. Et je reviens sur la question de l'acceptabilité, parce que moi je pense quand même que c'est quelque chose d'extrêmement important, puisqu'on voit bien que toutes ces populations qui sont concernées par le réchauffement climatique, maintenant au premier chef, et même les autres, ont un attachement à leur lieu de vie, à leur mode de vie, et que changer un mode de vie ou un lieu de vie, c'est extrêmement compliqué. Il y a un autre reportage qui nous emmène au Sénégal, montre que pour déménager de 10 kilomètres, alors des logements qui étaient sur la plage...
Les pêcheurs notamment.
Oui,
hein.
Les pêcheurs de Saint-Louis du Sénégal qui doivent déménager à l'intérieur des terres. Alors, ils quittent un endroit beaucoup plus agréable pour un endroit qui est une fournaise avec des bâtiments qui se ressemblent tous et qui sont moches, mais ils ont quand même... par rapport à d'autres populations, la chance d'être relogées, ce que n'ont pas toutes les populations concernées.
Oui.
La question du pourquoi, la question de et la question de l'accompagnement des changements est quand même cruciale, parce que il y a aussi une tentation peut-être dans une partie de la population d'être dans le déni et de refuser ces changements, notamment dans les urnes. Et ça, il faut vraiment, je pense, en être pleinement conscient.
Ouais. Christophe Cassou.
Je pense que le déni est quand même en train de se lever. En tout cas, il prend une nouvelle forme. C'est plutôt un déni de vulnérabilité qu'un déni face au changement climatique en tant que tel. Il y a un devoir d'honnêteté, un devoir de lucidité. Quand on parle de plus 4 degrés sur la France, donc là, cette trajectoire plus 3 degrés monde, si on veut être honnête, il faudrait dès aujourd'hui poser la question de ce qu'on veut garder, ce qu'on veut protéger, et puis ce qu'on veut abandonner et ce qu'on veut transformer. Ces choix-là doivent être anticipés parce que ces transformations qui doivent se baser sur des valeurs de solidarité, des valeurs de justice, des valeurs d'éthique, en fait, elles prennent du temps et elles nécessitent un accompagnement.
Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que dans l'article de Marilyn Baumard sur le Sénégal, elle parle justement de ces pêcheurs, mais qui ont eux-mêmes conscience que dans les eaux qu'ils avaient l'habitude justement de travailler ou dans lesquelles ils jetaient leurs filets, elles ne sont plus si poissonneuses. Ils voient bien que le réchauffement climatique a des effets sur aussi le potentiel pour vivre et qu'un autre horizon peut-être s'ouvre. On voit un jeune homme qui d'ailleurs s'est blessé en allant à la pêche et réfléchit un peu à son avenir en se disant que peut-être que là, mine de rien, c'est une façon de changer de trajectoire aussi. Peut-être qu'il faut considérer, Magali Reguezazit, que avec ce réchauffement climatique, nos changements de vie aussi, nos questions ou ce qu'on va remettre en cause n'est pas forcément pour du pire, ça peut être peut-être pour du meilleur.
Alors ça peut être pour du meilleur, mais toute catastrophe malheureusement ou heureusement, peut-être une opportunité.
Oui.
La question qui est posée, c'est ce fameux « on » dont parle Christophe. On décide. Qui décide? Le problème de ces pêcheurs, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Qui accepterait aujourd'hui qu'on décide pour vous de changer? Et si, après tout, je veux rester? Et donc là, en fait, le sujet qui est posé, et c'est pour ça d'ailleurs que les chercheurs, par exemple, rejettent le terme de « comportement ». Comportement, c'est pas mode de vie. La somme des comportements va faire des modes de vie. Mais le comportement individuel, il est aussi rendu possible par un ensemble. On ne peut pas, et c'est là aussi le risque, c'est que le changement climatique exerce des pressions sur les territoires, exerce des pressions sur les sociétés, exerce des pressions sur les individus. Mais ces pressions, elles n'arrivent pas ex nihilo, elles n'arrivent pas de nulle part. On a des contextes qui sont liés à des décisions économiques, à des trajectoires politiques, à des héritages du passé, urbanistiques, de modèles agricoles, etc., qui font que aujourd'hui, le changement climatique est pour beaucoup d'individus un verrouillage en réalité. Et c'est pour ça aussi que nous nous battons sur les petits gestes, pas pour dire que les petits gestes sont inutiles, évidemment pas, mais pour dire que derrière, on a besoin d'avoir trois pôles qui sont ce que l'individu est, veut, et on n'est pas tout le temps pareil au même moment, ce que les ressources auxquelles il a accès, et puis ce que la société, ce que le collectif, ce que les macrostructures vont lui donner pour lui permettre d'avoir accès à ses ressources. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait, ces ressources diminuent du fait du changement climatique, mais aussi du fait de la très grande pauvreté, et que les États, la puissance publique, les entreprises, les stratégies des firmes font que, là aussi, cet accès n'est pas garanti. Et donc, il y a une vraie différence entre, je le dis à chaque fois, mais entre devoir, vouloir, et pouvoir. En tant que citoyenne, cette fois-ci, ma grande peur, c'est que demain, on contraigne au nom du changement climatique. On réduise les libertés des États, des pays, jusqu'à ce que demain, ça ne soit plus que quelques individus. Là encore, ces pêcheurs, ils sont loin, et puis finalement, on va les reloger, c'est pas si mal. Et puis, mais qui accepterait de quitter sa maison ? Qui accepterait de quitter sa vie, sa famille, ses voisins, juste comme ça, parce que quelqu'un à l'extérieur a décidé ? C'est contre ça qu'on se bat. Le changement climatique, il vient donner la dernière pichenette. Et c'est pareil pour le coup pour les migrants, c'est-à-dire ceux qui passent des frontières. Donc derrière ce point de bascule social, il s'enracine en réalité dans des causes. Et il ne faudrait pas que le changement climatique serve de prétexte pour invisibiliser, pour qu'on ne parle plus des causes profondes. Parce que vous pouvez déplacer autant que vous voulez des populations, si les causes restent,
bien sûr,
les effets
bien sûr,
ben sont les mêmes.
À ce stade de l'émission, peut-être profitons-en pour se projeter où vous constatez aussi ces effets, ces retours. Finalement, les récits que l'on trouve dans la série du Monde, on les entend aussi, vous en recevez de votre côté peut-être de plus en plus. Hein, Christophe Cassou, Magali Reguedzazit, qu'est-ce que vous avez peut-être à dire aujourd'hui ? Un message, la COP30 se profile. On est dans un contexte où il y a eu aussi des détricotages en matière de transition écologique. On perçoit que certains signaux ne sont pas forcément les plus enclins à l'atténuation. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, justement, à ceux qui ont entre les mains la possibilité d'engager quelque chose de plus positif comme adaptation, atténuation face au réchauffement climatique ?
Je crois que là où on a fait une erreur en tant que scientifique, c'est qu'on n'a pas parlé, on n'a pas su parler de ce monde en 2050 décarboné, qui est finalement pas si moche que ça, qui peut être un très beau monde. Et donc c'est une trajectoire, c'est un choix qu'on a à faire. Et moi, ce que j'attends en tant que citoyenne, c'est qu'on sait qu'il faut atteindre cette décarbonation. Moi, j'aimerais qu'on me propose des chemins pour y arriver, des chemins différents, avec des valeurs différentes, avec des projets politiques différents. Mais je pense qu'on a besoin d'avoir cette vision qui ne soit pas juste celle du climat, mais qui soit celle d'une société en fonction des valeurs de chacun, pour qu'on puisse retrouver ce sens du projet de vie, du projet politique. C'est quand même ça qui est beau dans nos démocraties. Mmh. Et quand on regarde le rapport du GIEC, ce monde décarboné, il n'est pas si terrible que ça, en fait. Ça peut être vraiment un beau monde. Mmh.
Christophe Cassou, rapidement.
La nécessité de vision et d'un monde qui peut être plus sûr, au niveau social, au niveau alimentaire, au niveau culturel.
Plus juste aussi.
Beaucoup plus juste et beaucoup plus équitable aussi. Ce monde-là, en fait, correspond à un choix. Nous pouvons aujourd'hui nous engager dans ce monde-là. Ce qui me fait peur, c'est le contexte de désinformation dans lequel on est, où ce contexte de désinformation tend en fait à rendre ou à créer un récit que ce monde-là, plus sûr, plus juste, plus équitable, ne serait pas possible. Et donc les enjeux liés au climat sont en fait idéologisés, je ne sais pas si ce mot existe, mais en tout cas sont utilisés pour cliver au lieu de rassembler, alors que...
On a besoin de toutes les forces. Hein.
Voilà, ensemble, on aurait besoin de toutes ces forces et de manière démocratique pour s'engager vers ce monde bas carbone que l'on ne connaît pas, mais qui peut être meilleur.
J'ai envie de finir, Gaëlle Dupont, sur la phrase d'un des habitants du Svalbard, rencontré par la journaliste Audrey Garic. Il disait ceci, « On est le canari du monde. Comme l'oiseau dans la mine, on prévient le reste du monde que le réchauffement est grave. Espérons qu'on nous entende. Il faut ouvrir nos oreilles et nos yeux et lire la série. »
Absolument, bien sûr.
Avec les derniers articles qui vont paraître.
Donc le dernier article sera publié le dimanche 2 novembre et ils seront publiés dans le journal en papier la semaine du 27 octobre.
Merci à tous les trois.
Merci.
Gaëlle Dupont et merci à tous les journalistes de la rédaction des Pages Planète qui ont contribué à la série Une planète à plus 1,5 degré, à lire sur le site du journal Le Monde. Magali Reguedzazit, on peut mentionner votre livre L'Anthropocène, documentation photographique, édité au CNRS Éditions. Christophe Cassou, le livre commis avec Valérie Masson-Delmotte, Parlons climat en 30 questions, un livre paru à la Documentation française. Bien sûr, comme d'habitude, la bibliographie, les liens sont à votre disposition sur notre site franceculture.fr. Rubrique de cause à effet ou d'autres podcasts en lien avec le sujet vous attendent.